Radio Capi.
Oh, Capi.
Le journal Pascal Masserica.
À la une de l'actualité sur Radio Capi, afflux des familles déplacées depuis deux semaines à Beni au Nord Kivu, la mairie et la coordination de la protection civile plaident pour une assistance d'urgence à ces déplacés. Montée d'accidents de circulation dans la ville de Bounia, en Ituri, selon la police nationale. Les 18 cas documentés depuis le début du mois de décembre ont coûté la vie à 5 personnes et au moins une dizaine de blessés. Notre invité, c'est le substitut du procureur de la République à Beni au Nord Kivu, Gustave Mouila, parle de la réhabilitation de la prison du parquet des grandes instances après l'évasion massive des détenus enregistrée le 6 décembre. Bienvenue à tous. Madame, Messieurs, bonjour. Au Nord Kivu, un afflux des familles déplacées signalé depuis deux semaines dans la ville de Beni. La mairie et la coordination de la protection civile ont lancé le week-end dernier une campagne d'enregistrement de ces déplacés afin de mener des plaidoyers pour une assistance d'urgence. Le point de la situation avec Marc Marofimbo.
Ce sont des familles déplacées fuyant les affrontements à répétition entre les FARDC et le rebelle ougandais de l'EDF dans le secteur de Rwenzori. Elles vivent dans des conditions difficiles, étant donné que toutes les zones qui alimentent la ville de Beni en vivres sont sous menace de sécurité. Si leur chiffre exact n'est pas encore connu, étant donné que les chefs de base sont mobilisés pour leur enregistrement, la coordination de la protection civile dans la région de Beni indique que le processus est en cours pour que les plaidoyers soient faits afin d'assister les déplacés qui sont gardés dans des familles d'accueil. Jean-Paul Capitula.
Le processus est en cours, le maire a lancé depuis le samedi dernier et aujourd'hui nous avons déjà des chiffres que nous allons présenter au maire. Ce sont des chiffres partiels et donc chaque matin nous ferons toujours cet exercice. Nous croyons que dans les 72 heures nous aurons un étang de lieu qui sera aussi partiel pour partager avec tous ceux-là qui veulent assister ou qui veulent comprendre la situation de se déplacer dans la zone.
Jean-Paul Capitula demande également aux personnes de bonne volonté de commencer déjà à penser à une assistance à ces familles déplacées pendant que le gouvernement ainsi que ses partenaires se mobilisent pour les assister incessamment. Beni, Marc Marofimbo, Radio Capi.
Pendant ces temps au sud Kivu, une journée ville morte est observée ce mardi dans le territoire d'Uvira. C'est à l'appel de la société civile pour réclamer du gouvernement congolais la réhabilitation de la route nationale numéro 5 reliant Uvira à la ville de Bukavu en passant par la plaine de la Ruzizi. Sur ce tronçon routier, les ponts de Sangé et de Runingu se sont effondrés. Reportage à Uvira de Fiston Goma Mayabala.
Les petits commerçants, les paysans agriculteurs et les transporteurs sont limités dans leur mouvement. Les produits divers et vivriers ont monté de prix dans les marchés locaux. Tout ceci se passe dans un contexte de fermeture des frontières à la suite de la COVID-19. La société civile avance des conséquences incalculables du délabrement très avancé de la route nationale numéro 5 qui traverse la plaine de la Ruzizi, principal grenier de la région et la ville d'Uvira. Son président André Biadounia explique.
L'argent n'arrive pas à destination. Ce que nous contribuons, nous, c'est énorme par rapport au trésor public, par rapport à l'aide des provinces. La contrepartie que nous demandons, c'est pas de dire qu'on va nourrir chaque Congolais, mais nous voulons seulement qu'on réhabilite la route nationale numéro 5 parce que si tous ces ponts sont emportés, je vous rassure que Uvira sera coupé avec Bukavu. Les gens ne traversent pas les Burundi, la Tanzanie, la Zambie. Nous allons souffrir ici. Nous, on ne doit pas attendre parce que lorsque le gouverneur est secoué par l'émotion, la vie continue et l'État fonctionne toujours. On doit débloquer cet argent. Nous n'allons pas nous fatiguer. Notre rôle, c'est de rappeler l'État congolais à faire ses missions régaliennes.
Pour l'instant, toutes les activités restent paralysées dans la ville et dans la Ruzizi. Le maire de la ville, Kiza Mouato, avait interdit cette ville morte à l'issue d'une réunion du Conseil urbain de sécurité, expliquant que les questions liées aux routes et ponts sont traitées par le pouvoir central. D'Uvira, Fiston Goma Mayabala, Radio Capi.
Et puis, dans le Kwilu, la route secondaire 622 en territoire de Gungu se trouve dans un état piteux, ce qui risque de suspendre le trafic entre cette province et le reste de la RDC. C'est le député provincial Aldo Louadi qui tire la sonnette d'alarme dans une interview accordée à la presse dimanche dernier. Il rappelle que cette route est d'intérêt capital sous les plans socio-économiques parce qu'elle relie Gungu à la ville de Kikwit, celle de Kinshasa et aux provinces voisines du Kwango et du Kasaï. Cette route mène vers le barrage hydroélectrique de Kakobola. Il ajoute que c'est depuis deux mois que les travaux de réhabilitation de cette route lancés par l'office de route sont arrêtée. L'élu de Gungu invite le ministre national de l'ITPR à prendre des mesures urgentes afin de protéger cette voie de communication. On l'écoute au micro d'Irène Mboma.
Ça fait pratiquement des mois, les travaux sont à l'arrêt et nous ne comprenons pas pourquoi l'Office des routes ne peut pas continuer les travaux tels que cela a été entrepris. Je crois que si nous ne faisons pas attention dans deux ou trois jours, je crois que Gungu sera coupé du reste de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire de Kikwit, Kinshasa, la province sert de Kasai. Cette route secondaire est d'intérêt capital pour la population de Gungu dans son ensemble. C'est celle qui relie sur le plan économique et social Gungu, territoire à Kikwit, Kinshasa, et la province serre du Kwango et du Kasai. Pas que c'est à Kakobola, juste à 62 km de Matamba, où le gouvernement de la République vient d'ériger un barrage sur la rivière Lufuku, qui est le barrage qui va permettre à notre population du Grand Bandundu et même du Kasai, à la province serre, pour l'énergie électrique. Donc, vous comprenez que sur ces deux points, le gouvernement a tout intérêt. Et ici, je lance l'appel surtout au ministre des Travaux publics pour que les choses soit accéléré au niveau de l'Office des routes pour que cette route soit réhabilitée.
Et puis, à Kisangani, le bureau du Fonds des Nations Unies pour la population a remis hier lundi des kits de dignité à une centaine de femmes vulnérables enregistrées au centre de santé Choukrani de la zone de santé de Kabondo. C'était en présence de Madame Madeleine Nikomba, la fondatrice de cette structure médicale partenaire de l'UNFPA. Le compte-rendu à Kisangani de Jacques Mkongolé.
C'est dans l'allégresse que les femmes en situation de vulnérabilité dans cette entité sanitaire ont reçu des kits de dignité. Ceux-ci contiennent des articles de première nécessité, notamment des effets d'hygiène intime, des sous-vêtements, des pagnes, des babouches, des polos et du savon. Pour Parfait Kaba, responsable du bureau de l'UNFPA à Kisangani, ce genre de kits participe au renforcement de la dignité de la femme.
Ces kits-là sont destinés un peu à enlever la honte de la femme, un peu à l'aider et à mener des activités normales dans la communauté avec dignité.
Les bénéficiaires n'ont pas tari d'éloge face à cette donation. De même que la fondatrice de ce centre, Madeleine Nikomba. Selon elle, ces femmes auront désormais confiance non seulement en cette structure médicale, mais aussi en elles-mêmes.
Avec cette structure, nous pensons que nous allons arriver aux objectifs que nous sommes posés, desquels que les femmes doivent se prendre en charge et les femmes doivent reprendre confiance en elles-mêmes. Concernant leur soins.
Après le centre de santé Choukrani, les mêmes kits seront remis également demain mercredi aux femmes enregistrées à l'hôpital général de référence de Kisangani Makiso dans la zone de santé de la Makiso. Jacques Mukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
L'actualité, c'est aussi la fin hier lundi à Mbandaka de l'atelier de deux jours organisé sur la mortalité élevée dans les élevages familiaux. Les participants aux assises ont dénoncé la divagation, la mauvaise alimentation, le manque de vaccins, les médicaments et le manque d'encadrement et de politique provinciale en cette matière. Ils ont également formulé des recommandations. Le gouvernement provincial a promis d'organiser une table ronde en 2021 en vue de promouvoir ce secteur délaissé mais si rentable pour l'Équateur. C'est une correspondance de Paul-Richard Malengela.
À l'issue de ces deux jours de réflexion, les participants ont formulé différentes recommandations tant aux autorités qu'à leurs partenaires d'accompagnement et de financement. Quant aux éleveurs eux-mêmes, ils ont recommandé ceci.
Les éleveurs doivent évoluer vers le professionnalisme de leurs activités, aménager les sites d'élevage avec les pâturages et habitats clôturés, se prendre en charge aux besoins des vaccins et des produits pharmaceutiques vétérinaires, respecter les calendriers vaccinaux.
Le coordonnateur du Sénadep Équateur qui a organisé la rencontre s'est félicité de ce premier atelier du genre. Didier Bokwala a surtout encouragé les participants à plus de responsabilités.
Formuler des recommandations est une chose, mais les réaliser en est une autre, car cela nécessite un sens de responsabilité, d'engagement et de détermination de nous tous.
En réaction aux recommandations de l'atelier et en vue d'un décollage effectif de l'élevage à l'Équateur, le ministre provincial de l'Agriculture, Jean-Julien Momolanda, a lancé l'initiative d'une table ronde sur l'élevage provincial en 2021.
Vous nous avez donné tout un tas de recommandations et je crois que dans les jours à venir, nous allons encore nous retrouver pour que, au niveau de la province, nous ayons une politique provinciale axée sur l'élevage et l'encadrement de toutes les familles qui s'y adonnent. Ce n'est que dans ce sens-là que cet atelier pourra accoucher de quelque chose.
Bandaka, Paul Chermalingue, la Radio Okapi.
Politique à présent. Débuté hier lundi au Palais de la Nation ici à Kinshasa, les travaux de la 7e conférence des gouverneurs des provinces se clôturent sauf imprévu ce mardi. Pendant 2 jours, les gouverneurs des 26 provinces de la RDC ont échangé autour du chef de l'État sur les thèmes « La gouvernance des provinces dans l'environnement démocratique actuel, défis et opportunités ». Pendant 7 ans, les députés provinciaux de 26 provinces de la RDC comptent 9 mois d'arriérés, démoliments accumulés et autres avantages sociaux. Ils dénoncent la non-application de la loi des finances de l'année 2020, précisément sur la dotation des assemblées provinciales. Ils ont plusieurs fois sollicité l'implication du chef de l'État pour décanter cette situation. C'est ce que nous explique Esther Ndalafina.
Pour rentrer dans leurs droits, les députés provinciaux avaient lancé plusieurs actions, mais sans succès. Ils ont d'abord menacé de boycotter la session de septembre dernier. Mercredi 29 juillet dernier, un groupe de députés provinciaux de quelques provinces avait effectué un sit-in devant l'immeuble du gouvernement à Kinshasa avec pour objectif de solliciter une audience auprès du premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, chef du gouvernement congolais. Bien avant cette action, ces députés avaient été reçus au ministère des Finances. Certains d'entre eux affirment que les explications leur fournies au ministère ont indiqué que les recettes récoltées ces derniers mois ont été faibles. Le ministère des Finances avait également rassuré que l'erreur enregistrée sur le libellé qui provenait du ministère de l'Intérieur avec mention frais de fonctionnement devrait être corrigée pour justifier qu'il s'agit bien de la rémunération. 9 mois après, cette raison peut-elle encore tenir? Les élus provinciaux déplorent l'injustice sociale entretenue par le gouvernement, étant donné que certaines institutions, dont notamment l'Assemblée nationale et le Sénat, ne connaissent aucun retard dans la paye des émoluments. D'autres députés ont attribué cette situation à la coalition FCC-CACH. Le ministre d'État, ministre de la Communication et des Médias, David Jolino Makelele, avait affirmé le 26 août dernier que le gouvernement avait déjà payé les arriérés des salaires des députés provinciaux, mais aussi les frais de fonctionnement des assemblées provinciales. Une déclaration vite contestée par les députés provinciaux. Certains experts en décentralisation estiment pour leur part que le non-paiement des émoluments des députés provinciaux fragilise les assemblées provinciales. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Autre nouvelle sur Radio Okapi à Butembo, dans le Nord Kivu, l'Observatoire de la décentralisation de l'administration et de la gouvernance demande au président de la République de ne pas confier des responsabilités dans le gouvernement et d'autres institutions aux anciens seigneurs de guerre. Il s'agit là de l'une des 20 recommandations contenues dans un mémorandum lui adressé hier lundi. Dans ce document, l'ODAG, qui est un centre de recherche de l'université catholique du Graben, demande aussi au chef de l'État congolais de veiller à la représentativité de jeunes et de femmes lors de la désignation des animateurs du gouvernement. Des précisions avec le directeur de l'Observatoire de la décentralisation de l'administration et de la gouvernance, le professeur Augustin Kahindo Muhesi, s'est confié à Florida Kahangu.
De ne pas accorder de postes de responsabilité aux anciens seigneurs de guerre parce que ce dernier a joué un rôle majeur dans les violations des droits de l'homme et ici notamment à l'est du pays. Les cicatrices des actions qu'ils ont menées pendant les rébellions sont encore vives dans la mémoire de la population. Ensuite, il faut que le chef de l'État tienne compte du poids des acteurs politiques aussi, des regroupements politiques, pour éviter en fait les frustrations lors de la répartition des postes au sein des différentes institutions du pays, à commencer par le gouvernement, qu'ils tiennent compte de la représentativité des femmes, mais aussi des jeunes dans les institutions par rapport à la pandémie, tout en protégeant la population contre le COVID-19, qu'ils ne puissent pas sacrifier aussi l'éducation. Aussi au chef de l'État de pouvoir collaborer avec la justice internationale pour permettre à ce qu'elle se saisisse des présumés criminels. Par rapport à la sécurité, il faut que le chef de l'État prenne en fait des mesures concrètes pour essayer d'éradiquer la sécurité qui bat son plaie à Beni, en Ituri et dans une partie du sud qui vaut.
Rendons-nous maintenant dans la province de l'Ituri pour parler de l'augmentation des cas d'accidents de circulation en cette période des festivités dans la ville de Bunia. Selon le commissariat urbain de la police nationale congolaise, 18 cas d'accidents sont déjà répertoriés depuis le début du mois de décembre. 5 personnes y ont perdu la vie et au moins une dizaine de blessés enregistrés, soit une augmentation de 40% comparativement à l'année dernière. La police nationale appelle au respect du code de la route. À Bunia, Martial Kizaibia Mungu.
D'après la police nationale congolaise, commissariat urbain de la ville de Bounia, tous ces cas d'accidents sont la plupart du temps occasionnés à des endroits considérés comme dangereux. Il s'agit notamment des ronds-points et du boulevard de la Libération au centre-ville. Le major Abeli Mwango, commandant du commissariat urbain de la police, indique que la non-maîtrise du nouveau code de la route est généralement à la base de cette montée de cas d'accidents sur la voie publique. En cette période de fête des fins d'année et pour éviter d'autres cas d'accident, la police rappelle ses quelques bons réflexes aux usagers de la route. Major Abeli Mwango.
Au conducteur de ne pas consommer des boissons alcooliques avant et pendant la conduite de l'engin, de respecter les nouveaux codes de la route, d'éviter de rouler à vive allure ou à excès de vitesse, surtout dans les agglomérations, et de ne pas conduire sans permis de conduire.
Signalons par ailleurs que pour faire respecter les mesures barrières contre la pandémie et des Covid-19, les commandants de la police à Bounia rappellent aux conducteurs de moto les ports des casques et des cache-nez pour les clients. Le major Abeli Mwango demande aussi à ces taximen moto de ne transporter qu'une seule personne sur leur moto. Bounia, Martial Kiza Biamungu, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Trois soldats français de la force Barkhane ont été tués en opération au Mali hier lundi après-midi alors que leur véhicule blindé a été atteint par un engin explosif dans la région de Ombouri. C'est ce qu'annonce l'Elysée ce mardi. L'Union européenne a demandé aujourd'hui à la Chine de libérer immédiatement la journaliste Zhang Zhang qui a été condamnée hier lundi après-midi à 4 ans de prison ferme alors qu'un important accord sur les investissements entre Pékin et Bruxelles est proche d'aboutir. Cette journaliste a été écrouée après avoir couvert l'épidémie de coronavirus à Wuhan et rapporté en même temps des informations d'intérêt public selon un communiqué du chef de la diplomatie européenne Josep Borrell.
L'invité.
À Beni, la prison du parquet de grande instance qui a connu une évasion massive des détenus le 6 décembre dernier est de nouveau réhabilitée. Quel état des lieux font les responsables des instances judiciaires de cette ville? Y a-t-il assurance de sécurisation de ces maisons carcérales? La réponse avec le substitut du procureur de la République à Beni, Gustave Mouila, s'entretient avec Marc Marofimo.
Monsieur le magistrat Gustave Mouila, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le premier substitut faisant intérim du procureur de la République des prisons de la ville de Beni, citant la prison centrale de Kangwai ainsi que l'amigo du parquet de grande instance de Beni, ont connu des cas d'évasion des détenus. Présentement, en quel état des lieux faites-vous de ces deux maisons carcérales qui regorgent la ville de Beni?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Il a été malheureusement constaté que dans la nuit du 19 au 20 octobre 2020, beaucoup de prévenus se sont évadés dans la prison centrale de Kangwai, ici à Beni. Et puis, en date du 6 décembre 2020, nous avons enregistré, ici au niveau du parquet, au sein de l'Amigo, une autre évasion de plus de 15 prévenus qui s'y trouvaient. Mais néanmoins, aujourd'hui là, je voudrais indiquer que l'Amigo du parquet de grande instance de Beni a été réhabilité. Totalement. Vous venez d'ailleurs de les constater avec nous. Nous avons repeint, nous avons débouché les latrines, nous avons refait le plafond par lequel les prévenus se sont évadés massivement. Nous avons remplacé deux portes. Nous avons d'ailleurs, pour la raison de la cause, appelé nos amis de la régie des eaux qui ont d'un seul cœur approvisionné des tuyaux d'eau pour que chaque fois les prévenus qui s'y trouvent ne puissent plus avoir des carences par rapport aux dessertes en eau. À ce qui s'ajoute, nous avons également électrifié cet Amigo pour empêcher que ces cas d'évasion successifs que le parquet de grande instance de Beni est en train de connaître puissent toucher à leur fin.
On peut avoir une lumière sur les moyens mis à contribution pour la réhabilitation de l'Amigo du parquet de grande instance de Beni, mais surtout, est-ce maintenant disponible, sécurisé pour accueillir les détenus?
Pour ce qui concerne l'Amigo, monsieur le procureur de la République, Philippe Itumbo Magico a donné le ton pour que cet Amigo puisse être réfectionné totalement. Et à l'heure qu'il fait, je donne d'ailleurs l'ordre actuellement à celui qui est chargé de la détention de pouvoir rapatrier tous les prévenus du parquet qui se trouvent internés à l'état-major de la police de pouvoir loger dès à présent aux locaux de l'Amigo du parquet de grande instance. Mais quant à ce qui concerne la prison de Kangwaï, c'est une prison centrale. Le magistrat de parquet n'a aucun pouvoir de la réhabiliter. Il n'y a que le gouvernement. Et le gouvernement, c'est donc l'exécutif qui peut se charger des travaux de réhabilitation ou des déplacements, des délocalisations. Mais tant soit peu, quant à ce qui nous concerne, l'Amigo du parquet de grande instance de Béni, ayant fait objet de l'évasion des détenus en date du 6 décembre 2020, actuellement vient de retrouver sa belle robe et dans les conditions telles que les prisonniers peuvent y rester sans inquiétude.
Monsieur le magistrat Gustave, la population s'est beaucoup inquiétée après l'évasion des détenus de cet Amigo. Quelle assurance faites-vous pour cette dernière ?
Vous savez que la population de Béni, les évasions des détenus, c'est pas seulement à Béni. Vous allez vous en rendre compte, c'est à travers toutes les prisons de la République. Si même vous pouvez un peu jeter un coup d'œil plus loin en étranger, nous suivons partout, à travers les télé, les réseaux sociaux, comment est-ce qu'il y a des prisonniers qui s'évadent par-ci, par-là et tout ça. C'est pas seulement un fléau qui a frappé la population de Béni. Mais nous voudrions d'abord rassurer que nous avons pris des mesures pour que l'Amigo du parquet puisse revêtir sa belle robe comme en son temps. Et nous disons qu'elle ne puisse pas perdre l'espoir. Le magistrat n'est donc que le meilleur de soi-même, arrêté et puis envoyé en prison au cas où les faits sont avérés. Le parquet de grande instance, comme le parquet prélitripé, le parquet militaire, y compris toutes les institutions judiciaires, sont déjà en train de rattraper tous ceux qui sont auteurs des faits infractionnels qui s'étaient évadés à l'occasion, donc dans la nuit du 19 au 20 octobre 2020. Elle n'a qu'à comprendre que c'est un fait qui s'est fait partout et n'est pas nous tenir rigueur.
Monsieur le magistrat Gustave Maïla, je rappelle que vous êtes le premier substitut faisant intérim du procureur de la République. Nous vous disons merci.
Je vous remercie.
L'invité de Radio Kapi était le substitut du procureur de la République à Béni au Nord Kivu, Gustave Mouila, était interrogé par Marc Marofimbo. Et c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir écouté dans un court instant l'actualité sportive avec Dieudonné Kabeyangalula.